Bonjour à tous. Je voulais commencer rapidement, parce que ma conférence est un petit peu longue, par remercier les organisateurs du colloque et le CRIDAC. Et puis, je vais tout de suite enchaîner dans le vif du sujet. Et je commencerai une petite introduction par pourquoi regarder ce qui se passe sur le plan international, donc sur le plan du droit international, pourquoi pas se focaliser davantage sur le droit interne. Eh bien, il y a notamment deux raisons à ça, selon moi. En fait, le droit international peut avoir une autre compréhension de ce que sont les identités autochtones, de ce qu'est le territoire et de ce que doit être le rapport entre les peuples autochtones et l'État. Et puis la deuxième raison, c'est que, selon moi, les instances nationales, les instances de droit interne peuvent s'inspirer de ce que fait le droit international, parce que très souvent, en droit international des peuples autochtones, il y a des solutions différentes qui sont apportées. Donc un peu pour vous montrer l'intérêt de regarder ce qui se passe sur la scène internationale et supranationale. Alors ma présentation va se diviser en trois points en fait, et je vais un petit peu me détacher du texte que j'avais soumis. Le premier point va être une mise en contexte sur le droit international spécifique aux peuples autochtones en matière de terres, territoires et ressources. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi finalement je ne vais pas traiter de ce droit des peuples autochtones spécifique, donc qui a été reconnu par que ce soit la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ou la Convention 169, mais je vais m'en aller regarder ce qui se passe du côté des instances régionales de protection des droits humains. Donc ça, c'est ma mise en contexte. Dans un deuxième temps, en fait, je vais vous parler des revendications autochtones devant ces instances régionales de protection des droits humains et quel est leur accueil, en fait, quel accueil est réservé à ces revendications par ces instances. Et dans un troisième temps, et en raison de l'actualité de la semaine dernière, je vais vous parler en fait, du Canada et comment en fait le Canada pourrait-il être contraint par ces normes internationales et développer sur un cas tout récent en fait qui concerne le Canada. Donc premièrement, la mise en contexte. En fait, le droit aux terres, territoires et ressources, qui est l'objet de ma présentation aujourd'hui, est reconnu comme étant un droit collectif par plusieurs textes, notamment, principalement par la Convention 169 relative aux peuples aborigènes des tribaux, donc qui est le seul traité en fait qui protège en droit international les peuples autochtones et qui a été adopté dans le cadre de l'Organisation internationale du travail en 89. Donc ce texte reconnaît à son article 14 le droit de propriété et de possession des peuples autochtones, et ce droit a été à nouveau reconnu tout récemment par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, donc à son article 26. Alors on a ces deux textes qui constituent un petit peu le cœur du droit international propre aux peuples autochtones, et le problème avec ces deux textes, c'est que leurs mécanismes de contrôle sont soit insuffisants, soit inexistants. Ils sont inexistants dans le cas de la Déclaration des Nations Unies. Et donc les requérants autochtones ont fini par se tourner pour faire valoir leurs droits, pour les faire pour qu'ils soient appliqués, puis pour que leur application par les États soit contrôlée. Ils ont fini par se tourner vers d'autres instances, des instances qui traditionnellement ne protégeaient pas les droits des peuples autochtones, mais étaient propres à protéger les droits humains, donc des droits individuels et puis des droits qui sont reconnus à tous. Parce que ces instances-là de protection des droits humains peuvent rendre des décisions beaucoup plus contraignantes vis-à-vis des États. Donc les autochtones se tournent vers ce forum, et la question est alors de savoir comment les revendications autochtones sont reçues par ces instances de protection des droits humains. Alors je vais un petit peu, pour finir ma mise en contexte, je vais vous resituer quels sont ces forums. En fait, au niveau régional, on en a trois. Il y a d'abord la Cour européenne des droits de l'homme avec le Conseil de l'Europe, donc une instance régionale qui protège les droits humains en Europe. En son sein, l'instance judiciaire et la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette Cour contrôle en fait la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme. Au niveau du système africain, on a l'Union africaine depuis 2002, puis avant ça l'organisation l'OUA, l'organisation, le nom, c'est pas Union africaine, l'organisation de... Bon, c'est pas si grave là, mais en tout cas, depuis 2002, c'est l'Union africaine. Et en son sein, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, charte dont le contrôle est réservé, donc la mise en œuvre de cette charte est contrôlée par deux instances, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Sachez toutefois que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas encore en fonction. Donc on ne peut regarder que ce qui se fait devant la Commission. Troisième système régional de protection des droits humains, bien c'est le système interaméricain qui nous concerne davantage ici au Canada. Le système interaméricain, il s'est développé dans le cadre de l'Organisation des États américains. Et dans ce cadre-là, on a deux instances quasi-judiciaires et judiciaires. On a d'abord la Commission interaméricaine des droits de l'homme et puis la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La première contrôle la mise en œuvre de la Déclaration américaine sur les droits et les devoirs de l'homme. Donc je ferai bien attention quand je parlerai de déclaration. Ce n'est pas seulement la Déclaration des Nations Unies, mais c'est aussi la Déclaration américaine, donc deux textes différents. Important de les distinguer. Et la Cour interaméricaine, elle, contrôle la mise en œuvre de la Convention américaine des droits de l'homme. Donc, on a ces trois systèmes régionaux. Ces trois systèmes régionaux ont tous les trois un traité qui protège les droits humains, mais un traité qui ne protège pas expressément les droits des peuples autochtones et des traités qui ne font même pas mention du cas des peuples autochtones. Comment on en est venu, comment les juges en sont venus à traiter du cas des peuples autochtones? Eh bien, c'est par l'activisme en fait des peuples autochtones qui ont soumis en fait des interprétations novatrices de ces textes qui ont permis d'inclure la cause autochtone et la lier aux questions de droits humains, de droits de la personne. Donc c'est réellement par eux, par leur interprétation, que leur cause est venue devant ces instances-là. Alors, je vais passer à ma deuxième étape sur, justement, ces causes, quelles sont-elles et quelles sont les revendications, comment ont-elles été accueillies. En fait, deux des trois instances judiciaires de protection des droits humains ont été favorables à reconnaître les revendications autochtones en matière de droits aux terres, territoires et ressources en tant que droit collectif. Il s'agit de la Commission et de la Cour interaméricaine ainsi que de la Commission africaine des droits de l'homme. Par contre, la Cour européenne des droits de l'homme s'est opposée à la reconnaissance d'un tel droit et reste assez réticente vis-à-vis des droits collectifs ainsi que du droit à la terre parce que le territoire est intrinsèquement relié à des intérêts étatiques et je crois que la Cour européenne est un petit peu réticente à s'opposer à ces intérêts-là. Donc, comme je n'ai pas le temps de parler de tout dans ma présentation, je vais me concentrer sur les cas africains et interaméricains, parce qu'il s'agit des cas les plus novateurs, selon moi. Mais pourquoi je mentionne le cas européen ? Pour vous dire surtout que en droit international, il n'y a pas d'uniformité. Donc, j'ai beau vous parler des cas africains et interaméricains, ça ne veut pas dire que le droit aux terres, territoires et ressources en tant que droit collectif est reconnu par toutes les institutions, toutes les instances internationales. Non, on voit avec le cas de la Cour européenne que ça n'est pas le cas. Donc, il ne s'agit pas d'un droit qui est encore reconnu partout au sein de toutes les régions du monde, mais quand même, l'Afrique et les Amériques constituent des exemples intéressants. Alors, je vais d'abord commencer par le cas interaméricain. Donc, au sein du système interaméricain, en fait... Il y a plusieurs requérants autochtones qui s'étaient vus dépossédés de leur territoire, donc soit en raison de l'exploitation des ressources naturelles, soit en raison d'interventions militaires disproportionnées. Et ces communautés-là se sont fondées sur l'article 21 de la Convention américaine des droits de l'homme qui protège le droit de propriété. Alors, l'article 21, il protège le droit de propriété, oui, mais il ne mentionne à aucun moment le droit de propriété collectif. Et dans les travaux préparatoires, ce que voulaient conférer les États à travers cet article, c'est un droit de propriété privé, en fait. Les États n'avaient pas du tout pensé à l'inclusion de la vision collective de la propriété. Pardon ? Non, c'est correct. Et de manière très étonnante, finalement, la Cour interaméricaine est venue reconnaître cette interprétation-là et est venue la soutenir complètement. Alors, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'un droit individuel peut se transformer en droit collectif. Et qu'un droit de propriété privée, donc qui porte normalement sur des parcelles très définies de territoire, peut porter sur un territoire ancestral. Donc c'est assez original. Pour venir à cette solution-là, c'est quoi le raisonnement des autochtones ? Eh bien, en fait, les autochtones, ils se fondent sur deux articles de la Convention américaine des droits de l'homme, l'article 1er et l'article 2, qui dit que les dispositions de la Convention doivent être mises en œuvre et interprétées de manière efficace. Alors, eux, en fait, soutiennent le fait que sans la reconnaissance du droit collectif, du droit de propriété dans sa dimension collective, il est impossible de parvenir à une mise en œuvre efficace de la Convention en ce qui les concerne. Puis ils soutiennent aussi que la Convention, et puis ça a été soutenu sur les questions de droits humains très très souvent, puis c'est une belle manière de faire évoluer les droits humains, ils ont soutenu que ces conventions-là, la Convention américaine, était un instrument vivant et qu'elle devait être interprétée de manière adaptée en fonction des diverses réalités socioculturelles auxquelles elle était confrontée. Alors bon, ça c'est la revendication de manière générale. Ils revendiquent donc un droit de propriété collectif sur leurs terres ancestrales. Un petit peu, ça c'est à partir de 2001 vraiment. En 2007, ils revendiquent aussi un droit de propriété collectif sur leurs ressources naturelles. Et ils revendiquent aussi le droit à la consultation préalable libre et éclairée toutes les fois où l'exploitation est autorisée par l'État. Comment la Cour va réagir à ça ? Eh bien, je vous le disais très positivement. En fait, dès l'affaire à Ouasténi en 2001, elle reconnaît le droit de propriété collective des peuples autochtones et elle indique en fait que pour respecter ce droit, les États ont l'obligation de démarquer, délimiter, reconnaître un titre de propriété à la communauté. Et, petite parenthèse, dans l'affaire à Ouasténi, le titre de propriété officiel sur le territoire que la communauté revendiquait, la communauté ne l'avait pas, ce titre officiel. Donc, il a fallu qu'elle en fasse la preuve à sa manière. Et ça a été tout à fait bien accepté par la Cour, le fait qu'elle puisse bénéficier d'un droit de propriété, même si elle ne bénéficiait pas du titre officiel. Donc, elle accueille tout à fait favorablement cette revendication. Elle reprend l'idée qu'effectivement, la Convention doit être interprétée de manière effective vis-à-vis de toutes les populations des Amériques. Elle se base sur le droit interne nicaraguayen, parce que dans ce cas-là, c'était le Nicaraguay qui était mis en cause. Et en fait, la constitution du Nicaragua reconnaissait le droit aux terres des peuples autochtones. Donc elle dit, bien, ce droit doit d'autant plus être reconnu que dans ce cas d'espèce-ci, bien, l'État reconnaissait ce droit en droit interne. Donc une raison de plus pour lui appliquer en droit international. Puis elle se base aussi, chose originale, sur la coutume autochtone. Et c'est quelque chose que font très peu les juges. Reprendre ce que dit la coutume pour soutenir leur argument. Elle se base aussi sur la conception du territoire qu'ont les autochtones et pour ce faire, elle se base vraiment sur les témoignages des autochtones. Elle ne vient pas transformer cette vision comme a pu le faire la Cour suprême du Canada, la romancer ou l'essentialiser. Elle la reprend telle que les autochtones la lui présentent et telle que les experts autochtones présents en cour la décrivent. Et donc, elle reconnaît cette obligation de délimiter, démarquer et reconnaître un titre de propriété. Puis ça, à partir de 2001, c'est quelque chose qui ne changera pas. Ça reviendra dans toutes les décisions, les arrêts, en fait, de la Cour interaméricaine. Systématiquement, sur toutes les revendications de territoire des autochtones, elle réaffirmera ce droit de propriété. Cette interprétation-là, elle sera aussi reprise par la Commission interaméricaine. Donc, vous souvenez qu'il met en œuvre la Déclaration sur les droits et les devoirs de l'homme. Puis c'est bien important de retenir parce que le Canada peut être condamné en fait sur ce fondement-là. Donc, on est content de savoir que la Commission aussi adopte la même vision des choses. Et ça, c'est dès 2002, dans une affaire qui s'appelle Dan contre les États-Unis. Là, c'est en fait la communauté Shoshone de l'Ouest aux États-Unis qui s'oppose à l'expropriation de son territoire et à son exploitation minière. Et dans cette affaire, la Commission vient totalement reprendre le raisonnement de la Cour et l'applique au cas de l'article 23 de la Déclaration américaine, qui lui protège aussi le droit de propriété, mais qui expressément évoque le droit de propriété privé. Et là, elle vient complètement, quand bien même il ne s'agisse que de droits de propriété privée qui soient invoqués dans la déclaration, elle vient néanmoins appliquer tout le raisonnement de la Cour et reconnaître le droit de propriété collective de cette communauté. Chose intéressante dans cette affaire, la Commission vient parler de la valeur du droit au territoire. Et elle nous dit, en fait, que le droit à la terre et aux ressources, eh bien, c'est un principe juridique général du droit international qui est applicable tant à l'intérieur du système interaméricain qu'à l'extérieur. Donc, c'est assez intéressant. Une application donc, qui tend à l'universalisme un petit peu. Elle dépasse les frontières du système interaméricain. Puis à ce propos, en fait, donc, qu'est-ce que c'est les principes généraux du droit international ? C'est une source du droit international, donc au même titre que les conventions, que la coutume internationale, mais c'est une source assez ambiguë et assez indéfinie. Donc il y a toujours un petit peu une difficulté à savoir qu'est-ce que c'est réellement au niveau de la valeur juridique, mais une source quand même qui est reconnue par le statut de la CIJ. Certains auteurs vont aller plus loin que ça. James Anaya, lui, donc le rapporteur spécial sur les questions autochtones, qui est autochtone lui-même, lui fait valoir que le droit aux terres, territoires et ressources, c'est de la coutume internationale. Alors là, on aura peut-être un débat là-dessus. C'est quelque chose qui est controversé, hein, parce que je pourrais en reparler au stade des questions. Qu'est-ce que c'est de la coutume internationale ? Il y a un certain nombre de critères pour que ce soit reconnu. Bon. La Cour, de son côté, donc en 2002, on a cette affaire, elle poursuit en 2005 une nouvelle affaire, Yaki-Aksa, elle reconnaît à nouveau le droit de propriété collective. Dans cette affaire, elle fait le lien même entre l'accès au territoire et le droit à une vie digne, puis elle reconnaît qu'on ne peut pas avoir, un peuple autochtone ne peut pas avoir une vie digne lorsqu'il est dépossédé de son territoire. Dans cette affaire, elle vient aussi formuler un test qui permettra à l'État de justifier les attaques qu'il apportera au droit de propriété des territoires ancestraux. Et en fait, ce test se compose ainsi. En fait, il a 4 critères. Le premier est que l'atteinte soit prévue par la loi. Le deuxième, c'est que l'atteinte doit être nécessaire. Elle doit être aussi proportionnée. Et elle doit être prise dans le but d'atteindre un objectif légitime dans une société démocratique. Alors ça, c'est les tests de justification en droit. Ils se ressemblent beaucoup, que ce soit en droit international ou droit interne. Mais l'originalité ici, c'est que la Cour vient nous dire d'abord que ben, ce test, il faut l'appliquer au cas par cas. Donc, il n'y a pas une application uniforme à avoir. Et autre indication qu'elle donne, c'est que, juste après avoir mentionné le test, elle indique le droit de propriété privé ne doit pas primer sur le droit de propriété collectif. Alors, je trouve que c'est une approche assez intéressante et originale, parce que traditionnellement, c'est pas ce que font les cours de manière générale, c'est pas la manière qu'ont tous les juges de penser. Donc ça, c'est un petit peu l'apport de l'affaire Yaki-Aksa. En 2007, et ce sera à ce stade la dernière affaire dont je vous parlerai pour le système interaméricain, dans l'affaire Saramaka, elle reconnaît, ben, ça a été revendiqué en fait par les Saramaka eux-mêmes, le droit de propriété collective des ressources naturelles et du territoire. Et en fait, dans ce cas-là, en fait, les Saramaka dénonçaient les effets d'une mise en concession d'un territoire pour des fins d'exploitation minière et forestière, et dénonçaient aussi l'incidence de la construction d'un barrage sur leur territoire. En fait, la construction du barrage et l'exploitation des mines d'or avaient eu de grandes répercussions et avaient pollué leurs ressources naturelles, donc très difficile de survivre sur ce territoire quand il est totalement pollué, et notamment pollution de la ressources en eau, donc qui est quand même essentiel. Et tout ça a causé le déplacement des membres de la communauté. Donc, pour la communauté, il y a atteinte à l'article 21 à nouveau. Oh non, c'est pas déjà fini ? 5 minutes ? Bon, je me dépêche. Et la Cour, dans ce cas-là, reconnaît le droit de propriété collective sur les terres, les territoires... le droit de propriété collective sur les territoires et les ressources essentielles à un mode de vie et traditionnellement utilisé. Là, il y a des critiques à faire et puis je peux en parler au stade des questions. Et dans cette affaire, elle vient aussi dire que le droit de propriété collectif peut... des ressources naturelles peut être limité lui également. Et comment ? Ben, l'État, s'il veut limiter ce droit de propriété collective des ressources, il doit aussi mettre en œuvre un test avec des conditions. Première condition, c'est que l'État respecte le droit à la participation effective des peuples autochtones. Et elle mentionne expressément que qu'est-ce que c'est la participation effective ? Oui, c'est le droit à la consultation, mais dans les cas de projets d'envergure, c'est le droit au consentement préalable libre et éclairé. Donc lui intervient à ce moment-là. Deuxième condition pour que l'atteinte soit justifiée, l'atteinte au droit de propriété des ressources, eh bien c'est qu'il y ait partage des bénéfices entre l'État et la communauté. Et troisième condition pour que cette atteinte soit justifiée, eh bien il faut qu'il y ait une enquête préalable d'impact environnemental et social et que ce soit une enquête indépendante. Alors cette jurisprudence-là, bon, elle est très novatrice et en 2010, elle sera reprise par la Commission africaine des droits de l'homme. Donc la Commission viendra, dans un cas qui concerne la communauté Andorwa au Kenya, viendra réappliquer cette interprétation-là. Elle reconnaîtra dans le cas des Andorwa le droit à la propriété collective des territoires et également des ressources naturelles essentielles à un mode de vie autochtone. Et la Commission africaine reconnaîtra aussi que, bien évidemment, c'est un droit qui n'est pas absolu et qui peut être, les atteintes par l'État peuvent être justifiées au moyen d'un test qui est un petit peu similaire. Sauf que dans ce test-là, la Commission nous dit que, pour elle, le minimum requis, ça n'est pas la consultation, mais c'est bien le droit au consentement préalable libre et éclairé, donc une norme solide et un petit peu plus élevée puis plus certaine. Et elle inclut aussi au test que toute atteinte aux ressources ou au droit au territoire doit être compensé, doit recevoir compensation complète. Et qu'est-ce que c'est compensation complète ? C'est soit rétrocession, soit compensation par l'obtention d'un territoire de qualité équivalente. Dernier élément sur la Commission africaine, en fait, elle internationalise les obligations qu'ont l'État en matière de droit au territoire et ressources, et elle dit en fait que ces obligations sont des obligations internationales, donc universalisation encore. Donc on voit à travers ces deux cas, africains, interaméricains, que les juges sont capables de comprendre les revendications autochtones malgré les valeurs orientées qu'ils peuvent avoir, et donc capables de reconnaître... de qualifier en droit aussi de manière à ce que le droit soit efficace et ça s'adapte finalement. Et comment tout cela s'applique ? Merci. Comment tout cela s'applique au cas du Canada ? Eh bien, petit rappel d'abord, le Canada n'a pas signé la Convention 169 de l'OIT en 89. Ne l'a jamais ratifié. En 2007, il a voté contre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et il l'a finalement adopté en 2010, mais en soumettant la déclaration aux normes de droit interne, donc une reconnaissance quand même qui comporte certains bémols. Mais le Canada est membre de l'OEA, donc depuis 89, je pense. Et en tant que membre de l'OEA, ben, il doit respecter la Déclaration sur les droits et les devoirs de l'homme, qui en fait a valeur quasi conventionnelle. Et comme le contrôle de la mise en œuvre de ce texte est réservé à la Commission, il peut être poursuivi par des peuples autochtones devant la Commission américaine des droits de l'homme, donc à Washington. Et donc c'est de cette manière-là me semble la plus efficace pour les peuples autochtones, pour que eux puissent recevoir une certaine réparation, ou en tout cas peuvent se voir reconnaître la violation de leurs droits. Parce que sous le régime de la Déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones, il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Vous savez que la Commission interaméricaine applique le même raisonnement de la Cour interaméricaine, donc reconnaît le droit de propriété des ressources naturelles, le droit de propriété collective des ressources naturelles et du territoire, depuis l'affaire Dan. La seule différence avec la Cour, c'est que les décisions de la Commission sont moins contraignantes. C'est une instance quasi juridictionnelle, donc ça n'a pas la même valeur que les décisions, les jugements de la Cour, mais quand même. Comment ça s'applique ? En fait, depuis 2009, il y a un cas canadien, en fait, devant la Commission interaméricaine. C'est le Ulcuminum Treaty Group, pardon pour la prononciation. association qui poursuit le Canada, en fait le fédéral et le gouvernement fédéral et provincial pour non-respect de leurs obligations internationales. En fait, ce Ulcominium Treaty Group, je l'appellerai HTG pour plus de facilité, c'est un groupe autochtone qui se situe en Colombie-Britannique et son territoire traditionnel se situe sur l'île de Vancouver. Il représente 6 Premières Nations Salish et en 2007, il dépose donc un recours devant la Commission interaméricaine pour violation de la Déclaration sur les droits et les devoirs de l'homme et pour violation notamment de l'article 23 sur le droit de propriété. Pas seulement, il y a d'autres recours, mais je vous parlerai de celui-là. Il y a d'autres fondements qui sont soulevés, mais je vous parlerai de celui-là. Est-ce que je peux juste finir avec ce cas-là
rapidement?
D'accord. Alors, en fait, dans ce cas, le HTG dit qu'il ne peut pas se faire entendre au niveau canadien. Il a beau négocier, ses revendications ne sont pas prises en compte. Et il soutient qu'en fait, le processus de négociation sur les ententes globales n'est pas un processus efficace. Le gouvernement ne veut pas entendre ces revendications parce qu'en fait, elles portent... Le gouvernement, à la fin du 19e siècle, a vendu les terres du HTG et ce sont aujourd'hui des terres privées. Donc à chaque fois que le HTG s'assied à la table des négociations, il se fait dire « Ah non, on ne négociera pas de ces terres-là parce que ce sont des terres privées, donc elles sortent de toute négociation au niveau des ententes sur les revendications globales. » Et les terres privées, ces terres privées constituent, je pense, 80% du territoire ancestral du HTG. Donc c'est énorme pour eux. Ne pas négocier sur ces terres-là, c'est ne rien reconnaître quasiment. Donc poursuite. En fait, je vais vous donner ce que la commission qu'est-ce qu'elle a dit dans sa décision sur la recevabilité du cas. En fait, c'est la première fois qu'un cas est reconnu comme étant recevable par la commission en ce qui concerne le Canada, sur les questions autochtones du moins. Et elle nous dit en fait que pourquoi le cas est recevable selon elle, parce qu'en fait, la question controversée en la matière, c'était que le HTG n'avait pas épuisé les voies de recours internes. Donc ça, c'est un des critères. Avant d'aller sur la scène internationale, devant les tribunaux internationaux, on doit passer par tous les paliers, par tous les tribunaux, les niveaux internes, jusqu'à la Cour suprême, et on doit se faire dire non par la Cour suprême, et là, on peut aller à l'international. Là, le HTG n'est pas allé devant les recours internes parce que pas la possibilité, ils trouvaient que c'était complètement inefficace, et la commission reconnaît l'ineffectivité des recours internes, dit qu'aller devant la Cour suprême, ça ne sert à rien, puis je pourrais vous parler au stade des questions de comment ils ont fait la preuve de cette inefficacité-là, c'est assez original. Autre chose, elle reconnaît l'inefficacité du processus de signature des ententes au Canada, et c'est pour ça qu'elle dit que le cas est acceptable. En 2011, elle a aussi imposé des mesures provisoires au moment où une des compagnies forestière, le gouvernement était en négociation pour la vente de cette compagnie-là et elle a imposé des mesures provisoire pour imposer la consultation en fait de la communauté au moment de cette vente, parce que la vente aurait des impacts sur la gestion du territoire. Et le cas n'a pas encore été tranché sur le fond, mais en tout cas ça promet d'être intéressant, je pense. Donc, je vais conclure là-dessus, sur cette décision, puis je pourrai vous en parler plus au stade des questions. Merci pour le temps accordé.
Le temps supplémentaire. Merci beaucoup. Donc, nous aurions maintenant les commentaires de Ingrid Webb de l'Université de Montréal. Elle a besoin d'un micro aussi.
Alors, bravo pour cette présentation fort intéressante et pour le texte qui a été rédigé aussi par rapport à ça. Je pense que Mme Forgette a bien démontré les deux aspects, c'est-à-dire les arguments sur lesquels les Autochtones se fondent pour faire leurs revendications de droits collectifs à partir de droits individuels, ce qui est très intéressant, et a bien exposé aussi la façon dont les instances régionales ont accueilli ces revendications-là. On voit vraiment, elle n'a pas beaucoup parlé de la Cour européenne, mais dans son texte, elle en parle aussi. Donc, on voit vraiment la distinction qui se produit entre la Cour européenne qui ne veut pas reconnaître ces droits-là, et dans le système américain et africain où on reconnaît ces droits-là. Donc, tout ça, ce constat-là est fort intéressant. La seule chose que je me dis maintenant qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Et ça, j'aurais aimé ça, que vous élaboriez un petit peu plus là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est soulever quelques questions que je pense que ça peut ouvrir comme débat. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, peut-être, il y en a beaucoup, là, mais en 10 minutes, je n'aurai pas le temps de passer à travers toutes les questions qui me sont venues. Mais disons que je vais en mentionner quelques-uns. Donc, à partir du moment où la Cour va interpréter des droits individuels de manière contextuelle, hein, vous avez dit tout à l'heure, elle a accepté l'argument que on devait adapter l'article 21 aux situations, donc le fameux droit de propriété individuelle, on l'adapte au contexte autochtone et ça devient donc une dimension collective. À partir du moment où la Cour commence à interpréter des droits individuels de manière contextuelle, est-ce que ça ouvrirait pas la porte à l'obtention de droits collectifs par d'autres minorités que des peuples autochtones? Donc, on va regarder, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de définition universellement reconnue de ce que c'est qu'un droit autochtone, de ce que c'est qu'un autochtone, de ce que c'est qu'une nation, de ce que c'est qu'une minorité. Donc, comme on n'a pas de définition là-dessus, est-ce que si on regarde, plutôt que de regarder la qualification du groupe qui est devant nous, qu'on regarde la situation dans laquelle le groupe se trouve, on regarde donc le contexte, est-ce que des droits collectifs comme ça pourraient pas être apportés, donnés à d'autres minorités qu'on qualifie pas d'autochtones? Il y a des pays qui acceptent pas de qualifier leur minorité d'autochtones, même s'ils ont l'air de remplir tous les critères. Donc, est-ce que ce serait pas une façon, grâce à cette interprétation contextuelle, de faire passer, disons, l'interprétation ou l'évaluation, pas en fonction du qualificatif du groupe, mais en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, et donc d'accorder d'autres droits, des droits collectifs de ce genre-là à d'autres minorités ou à d'autres groupes? Je ne sais pas si la Cour, parce que vous avez pas, je n'ai pas lu le jugement, mais peut-être que la Cour a fait un lien. Vous avez dit qu'elle a accepté les témoignages des Autochtones de ce que c'est qu'un Autochtone. Donc, est-ce qu'elle a établi des critères ou elle ouvre, elle laisse la porte plus grande pour qu'en chaque cas, de manière contextuelle, on peut regarder si un groupe peut avoir ce genre de droit-là. Deuxième élément que je trouve important, à partir du moment où on reconnaît un droit collectif à partir d'un droit individuel, en faisant le lien que le droit individuel doit être adapté donc, au groupe, parce qu'il ne faut pas, on a fait le lien, vous n'en avez pas parlé, mais dans votre texte, vous en faites parler, la Cour fait le lien avec les règles de non-discrimination. Donc, parce qu'on doit appliquer des règles de non-discrimination, on doit adopter des mesures spéciales pour des groupes qui sont en situation minoritaire. Et donc, à interpréter cette mesure spéciale-là dans un contexte de droit individuel, ça donne une dimension collective. Donc, à partir du moment où on part d'un droit individuel puis qu'on accorde un droit collectif, est-ce que ça ouvre pas la porte à reconnaître d'autres types de droits collectifs à partir de d'autres types de droits individuels? Là, on est parti du droit de propriété individuel pour donner une dimension collective, droit de propriété collective. Si je prends, je ne sais pas moi, un droit individuel en matière politique, le droit de se porter candidat, interprété dans un contexte autochtone, est-ce que ça ne lui donnerait pas un droit collectif à obtenir certains privilèges comme de représentativité, un siège réservé au sein de l'État, d'un droit de veto, donc un droit collectif qui partirait d'un droit individuel dans d'autres domaines. Je ne sais pas, moi, dans le domaine social, des droits individuels qui reconnaissent la possibilité d'apprendre sa langue ou d'aller à l'école dans sa langue, disons, un peu comme on a à l'article 23 de notre charte canadienne, là, le droit à l'instruction et à des établissements d'enseignement. Est-ce que ça ouvre la porte à une interprétation plus collective, c'est-à-dire d'accorder un droit de gestion sur ces écoles-là, un peu comme on a fait en droit interne avec notre article 23 de la charte, qui au départ ne parlait pas de gestion, mais la jurisprudence l'a interprété comme ayant une dimension collective. Et donc, on a dit, il y a un droit individuel à l'instruction, il y a un droit individuel à avoir des établissements d'enseignement, mais en plus, ça doit être géré par la minorité. Donc, la même chose ici, à partir d'un droit individuel, est-ce qu'on peut donner une dimension collective? Bon, on pourrait prendre d'autres exemples, mais est-ce que ça rouvre la porte à ça? Troisième élément, je ne sais pas si j'ai encore du temps, j'en ai 4-5, on va continuer avec le temps que j'ai. Vous avez dit tout à l'heure dans votre présentation que la Cour avait utilisé la coutume autochtone pour en arriver aussi à justifier la dimension collective du droit. Or là, je me demande si les tribunaux commencent à utiliser la coutume autochtone, si ça, encore une fois, ça ouvrirait pas la porte à autre chose, donc d'utiliser la coutume dans d'autres contextes, pas nécessairement des droits collectifs, dans d'autres contextes. Je prends un exemple, j'ai lu un article récemment par rapport à la coutume autochtone en matière d'adoption. Selon la coutume autochtone en matière d'adoption, les enfants devraient être gardés dans la communauté, c'est-à-dire que l'adoption devrait être faite par un membre de la communauté. Généralement, c'est le parent biologique qui va choisir la personne qui va adopter, puis ça peut être même de façon temporaire hein, dans la coutume autochtone. Donc ça, c'est ce que la coutume autochtone dit. Qu'est-ce que les règles de droit civil de la majorité des pays occidentaux disent? C'est que l'adoption est faite en fonction de l'intérêt de l'enfant. Donc, si on regarde la coutume autochtone puis qu'on le confronte avec les règles civiles à l'effet que ça doit être en fonction de l'intérêt de l'enfant, si on applique l'intérêt de l'enfant, peut-être que l'enfant ne sera pas gardé dans sa communauté. Donc, si on applique la coutume, ça veut dire qu'on interpréterait les règles de droit civil en matière d'adoption de manière différente, adaptée à la situation autochtone. Mm-hmm. Donc, encore une fois, est-ce que le fait d'utiliser la coutume, ce qui, moi, en tout cas, à mon avis, c'est la première fois que la Cour utilisait ou reconnaissait une coutume autochtone, est-ce que ça ouvre la porte à ce qu'on va reconnaître d'autres coutumes autochtones pour interpréter d'autres droits à l'interne? Qu'est-ce que je peux ajouter? Vous avez parlé, on pourra peut-être en parler de d'autres points, mais je vais aller aux principaux. Vous avez indiqué la possibilité qu'il y ait une coutume internationale. On ne parle plus de coutume autochtone, on parle de coutume internationale de reconnaissance de droits collectifs. Il y a certains auteurs qui pensent qu'on est rendu là. Peut-être, mais je pose la question. Sauf que le problème que je vois de reconnaître une coutume internationale au niveau universel, je pense qu'au niveau, une coutume régionale pourrait bien se développer de ce que vous avez mentionné. Si on part du principe que dans le système américain et dans le système africain, on l'a reconnu. Donc ça, les jugements viennent aider à la reconnaissance d'une coutume régionale, du moins sur ces deux, dans ces deux systèmes-là, américain et africain. Mais comme la Cour européenne se borne à refuser, elle le fait de façon expresse, je vois de la difficulté à ce qu'il y ait la naissance d'une coutume universelle. Parce que pour qu'il y ait une coutume, ça nous prend quoi? Ça nous prend une pratique qui est uniforme, qui est générale, qui n'est pas contestée. Or, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas générale, parce qu'en Europe, elle n'est pas reconnue. Puis qu'est-ce que ça prend pour avoir une pratique? Dans quoi on découvre la pratique? Bien, ça peut être dans les lois des pays, ça peut être dans des déclarations par les premiers ministres, les ministres, etc. Ça peut être aussi par la jurisprudence. Donc, il y a une pratique, qui est la pratique jurisprudentielle de la Cour, qui vient expressément dire « Non, je ne suis pas prêt à reconnaître cette coutume-là. » Fait que là, j'ai de la difficulté à voir que la coutume universelle peut prendre forme. L'autre aspect de la coutume, ça nous prend une opinion juriste des États les plus particulièrement intéressés. Or, les États européens, en tout cas du moins les pays du Nord, sont particulièrement intéressés par la question autochtone. Donc, si la Cour ne reconnaît pas sur le territoire européen ça, de façon expresse, j'ai de la difficulté à voir que la coutume universelle va se développer. Par contre, pour ce qui est de la coutume régionale, il y aurait peut-être une coutume, effectivement, qui découle là, de ces jugements-là, dans mon point de vue, du système européen et africain. En tout cas, à première vue, si on se base juste sur ce que vous avez fait. Oui. Je vais conclure là-dessus. Peut-être qu'on pourra en discuter. J'avais d'autres points, mais on va laisser les gens aussi intervenir. Oui.